carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Louis Cretet, un visionnaire entre Lyon et Rome. C'est le titre d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon, consacrée à ce peintre majeur du XVIIe siècle, et qui est une véritable découverte dont l'histoire de l'art peut s'enorgueillir. Monsieur Pierre Rosenberg de l'Académie française, président directeur honoraire du Musée du Louvre, nous a fait le grand plaisir de venir dans nos studios pour nous éclairer sur ce peintre méconnu, jusqu'alors au moins, un peintre surprenant, intrigant, étrange et attachant, comme il dit. Monsieur Pierre Rosenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes passionné avec votre équipe de chercheurs pour ce peintre vraiment singulier et pour le faire sortir de l'ombre. Et c'est vous également, avec Aude-Henri Gobet, qui avez œuvré pour organiser une importante exposition à Lyon, la ville natale de l'artiste. Alors avant de plonger votre regard sur une toile que vous avez choisie pour notre série « Une œuvre, un regard », série que vous inaugurez, Pierre Rosenberg, pouvez-vous nous dire qui est Louis Cretet ?
Ben écoutez, j'aimerais bien le savoir en un certain sens. C'est un peintre mystérieux, c'est un peintre qu'on redécouvre en ce moment. C'est un peintre dont on peut se demander la place qu'il occupera dorénavant dans l'histoire de la peinture française, la seconde moitié du XVIIe siècle. Une bonne place, une très bonne place, une très grande place, l'exposition permettra d'en décider. Il est lyonnais, on ne sait pas exactement quand il est né. C'est un peu mystérieux. Il est d'une bonne famille d'artistes. Il devait être cultivé, ses lettres et les sujets de ses tableaux le prouvent. Les sujets en général d'une iconographie assez complexe. Et il a partagé sa vie non seulement entre Lyon et Rome, mais aussi en voyageant en Italie. On sait par exemple qu'il a séjourné assez longuement à Parme. Alors qui l'a formé, je ne le sais pas. Quelle a été l'évolution de son art ? L'exposition de Lyon propose une chronologie, mais elle est fragile et j'espère que l'exposition permettra de la confirmer ou au contraire de l'infirmer. Tout ça reste un petit peu mystérieux. Ce qui est intéressant, c'est évidemment que c'est un artiste qui était tombé dans l'oubli ou du moins dans les tableaux répartis dans de nombreux musées, notamment en Italie, à Rome, au Vatican ou en France, avaient perdu leur identité. Et en fait, on ne savait pas très bien, ils étaient attribués à toutes sortes d'autres peintres. Ça va des peintres autrichiens du XVIIIe siècle, comme Troger ou Maulpertsch, à des peintres même français du XVIIIe siècle, comme Fragonard même parfois, ou à des peintres français du XVIIIe siècle. En fait, ces tableaux s'étaient égarés un peu partout, sous toutes sortes d'autres noms. Et pourtant, il est très facile à reconnaître. Il est facile à reconnaître pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a un type de personnage masculin très particulier. Les hommes sans front, avec des yeux de poisson, a-t-on dit, des yeux qui sortent des orbites, des nez assez proéminents, des visages très agressifs en général. Et on le reconnaît aussi par ses couleurs. C'est des couleurs assez sombres. Il aime les bleus profonds, des orangés très vifs. Mais on le reconnaît surtout par sa touche. Il a une touche d'une extraordinaire liberté qui explique aussi pourquoi on a attribué certains de ses tableaux à des artistes du XVIIIe siècle. Et il peint extrêmement librement, avec une fougue, un emportement, un pathétisme tout à fait exceptionnel. Et puis on le reconnaît aussi par les sujets qu'il a peints. Il a beaucoup aimé les sujets mythologiques et les sujets religieux. Il a peint des saints rares, des saints qu'on représente rarement. Il les a peints avec violence, il les a peints avec une cruauté. C'est un monde très à part. C'est un monde, et là je suis presque en contradiction avec tout ce que j'aime en peinture, parce qu'en principe, je suis plutôt un homme du classicisme, des peintres pudiques, des peintres réservés, des peintres qui aiment les couleurs claires, dont la touche est mesurée, très contrôlée. Lui, c'est le contraire. C'est un expressionniste, j'aime pas beaucoup le mot, mais c'est vrai. Il met ses tripes à l'air, il se présente, il se laisse aller avec violence. Et c'est pour ça que le titre de l'exposition, visionnaire, même s'il a un côté un peu racoleur, si j'ose dire, lui convient quand même, dans la mesure où, en effet, il est un peu en avance sur, j'ose pas prononcer des grands noms, mais enfin, disons-le, sur Fuseli ou sur Goya, même si on veut bien que nous ne soyons pas dans la même catégorie de peintres.
Oui. Donc rien à voir même avec Caravage, qui est un...
Rien à voir avec Caravage, bien que ce soit aussi un peintre de la violence, c'est incontestable. Si vous voulez, il peint quand même bien après la mort de Caravage. Il peint bien après, il y a presque trois quarts de siècle. Et le monde du Caravage, à l'époque où Cretet pratique son art à Lyon et à Rome, le monde de Caravage à cette époque est déjà oublié. On a tourné la page. Plus personne ne sait très bien qui était Caravage. On l'a comparé, et l'exposition de Lyon a voulu le faire, avec des peintres romains contemporains, comme Pier Francesco Mola, qui l'a incontestablement influencé, ou comme Gaudí, le bachiche. On n'a pas peut-être suffisamment insisté sur Salvatore Rosa ou sur Magnasco. On l'a comparé, mais à l'exposition même, on s'est aperçu que le monde de Cretet et le monde de ces peintres italiens sont très, très différents. Je croyais que la comparaison permettrait des rapprochements entre ce monde romain et Cretet qui ne se sont pas avérés aussi précis, aussi exacts que je le croyais. C'est un peintre qui, à mon avis, c'est un indépendant. C'est un peintre qui a un petit peu... Il avait ses clients. Il ne semble pas être mort dans la misère, bien au contraire, il était marié avec des enfants, tout et tout. Il avait un peu d'argent, on le voit bien, mais il est loin des réseaux officiels, malgré quelques commandes importantes à Lyon, naturellement. Il est loin des réseaux officiels. En revanche, il a, et c'est curieux parce que le même phénomène se produit aujourd'hui, il a des collectionneurs, des amateurs qui le défendent. Il y a ce cardinal romain important, le cardinal Imperiali, qui le collectionne. Il y a à Lyon des collectionneurs qui ont toute une série de tableaux de lui. Il y a un collectionneur à Parme qui aussi le collectionne. Donc, il semble avoir eu des défenseurs, des amateurs qui ne se contentaient pas d'avoir un tableau de lui, mais plusieurs, qu'il aimait. Et à mon avis, il était un petit peu marginal, tout en ayant cette clientèle de quelques personnes qui lui a permis de vivre. Alors, je fais tout à l'heure une petite allusion au monde contemporain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, il a ce genre de public. Il y a à Lyon, Michel Descourbe, pour ne pas le citer, qui possède plus d'une dizaine de tableaux de l'artiste pour qui il s'est passionné, dont il a fait son héros.
Oui, justement, c'était une des questions que je voulais vous poser. Comment avez-vous fait pour rassembler donc les œuvres qui étaient dispersées partout, dont les attributions, vous venez de le dire, n'étaient pas toujours évidentes? Et donc, il y avait visiblement des collectionneurs qui avaient déjà l'œil bien avant qu'ils soient redécouverts.
C'est absolument vrai. Les collectionneurs, comme souvent, ont précédé les historiens de l'art. Il faut être honnête. Nous avions écrit, avec deux de mes amis, un article dans la Revue de l'Art, en 1988, qui était un peu l'article fondateur, dans lequel nous avions rassemblé tout ce qu'à l'époque nous savions, y compris d'ailleurs un prénom qui était faux, puisque nous l'appelions Pierre-Louis, alors que, comme vous savez, maintenant, on s'est aperçu que ce Pierre était de trop.
C'était cet article monographique de 1988.
Exactement.
Publié dans la Revue de l'Art.
Absolument. C'est un article que nous avons fait à trois, avec d'une part Lucie Galactéros, qui vit bien sûr encore fort heureusement, et qui est la spécialiste du plus grand peintre lyonnais du XVIIe siècle, avant qu'on ne redécouvre Cretet, qui, à mon avis, l'a supplanté de beaucoup, je veux dire Thomas Blanchet, et avec un érudit dont je regrette la mort prématurée, qui est un érudit dans la vieille tradition lyonnaise du XIXe siècle, qui s'appelait Gilles Chomer, et qui connaissait tout sur les archives de Lyon, qui savait tout sur les tableaux que Cretet avait peints à Lyon. Donc, à nous trois, moi je connaissais plutôt, si vous voulez, les tableaux qui n'étaient pas à Lyon et que je pensais pouvoir être de Cretet, qui portaient d'autres noms. À nous trois, nous avons fait un article qui est la base, si vous voulez, de la redécouverte de l'artiste. Depuis, d'autres tableaux sont venus s'ajouter, d'autres documents et odes dont vous parliez tout à l'heure a beaucoup aidé à la chose. De nouveaux documents sont venus nous permettre de compléter un peu sa biographie. Mais en fait, si vous voulez, 88 est la base de tout. Et l'exposition est une sorte d'étape intermédiaire entre 88, un artiste complètement inconnu, dont nous avons livré un peu les œuvres à la curiosité des érudits, l'exposition de 2010, qui le fait connaître, je l'espère, au grand public, et il semblerait que l'exposition rencontre un certain succès à Lyon, fort heureusement.
Oui, et puis, donc c'est bien la première exposition.
Ah oui, c'est la première. Et d'ailleurs, puisque vous me posez cette question, non seulement c'est la première exposition, mais le catalogue n'est pas simplement le catalogue de l'exposition, c'est une monographie sur le peintre, avec le catalogue raisonné de tous les tableaux que nous connaissons. Et par exemple, je prends un exemple dramatique, nous manquons de points d'ancrage dans la chronologie de Cretet. On le reconnaît très facilement, mais on ne sait pas très bien quand il a peint ses tableaux. Ce qu'il a peint à Lyon, ce qu'il a peint à Rome, il a fait plusieurs voyages entre Lyon et Rome, il est mort à Rome, on ne sait pas très bien à quelle date. Donc, la chronologie reste un vrai problème. Or, il y a un tableau qui est absolument capital, qu'il a peint pour une église de Rome. Ce tableau, je le connais, il a été publié, il appartenait à un grand collectionneur francophile italien, Bigongiari, qui était un grand francophile, qui est mort il y a quelques années. Il a vendu une partie de sa collection, toute la partie italienne de sa collection, à Prato, la ville proche de Florence. Et puis, il y a quelques tableaux qui sont entrés dans le commerce. Et ce tableau capital, documenté, peint pour une église de Rome, à une date assez tardive dans sa vie, mais quand même assez précise, eh bien, il a disparu. Donc, nous sommes donné un mal de chien pour le retrouver, parce qu'évidemment, c'est un tableau essentiel pour l'exposition. Et nous le reproduisons dans le catalogue, bien sûr, à partir d'une misérable photo en noir et blanc, qui n'est même pas une photo, qui est le contre-type d'une photo. Et voyez, alors donc, tout ce que nous avons pu essayer de faire pour lui redonner un peu sa vie à ce peintre, pour mieux comprendre l'évolution de son art, comment a-t-il progressé, quelles sont les influences extérieures qui ont pu le marquer, tout cela, pouf, un tableau disparaît et vous êtes dans l'embarras.
Oui, c'est toute une aventure.
Mais oui, ça, le métier d'historien d'art est un métier assez curieux. Mais là, l'enquête policière est très, fait partie des grands plaisirs de la vie. Alors, chaque jour, on attend dans son courrier la réponse, etc. Mais ça, c'est très amusant. Les historiens d'art, on l'oublie trop. Et c'est une particularité de leur métier. Je pense surtout, bien sûr, aux conservateurs, mais pas simplement. Ils ont une grosse responsabilité à l'égard des artistes du passé. Bien sûr, ils sont à leur service. Et c'est évident que les historiens d'art sont au service des artistes et non pas l'inverse, comme malheureusement, ça se pratique parfois. N'entrons pas dans les polémiques. Mais ils sont donc au service des artistes, mais ces artistes sont souvent oubliés. Et sans les historiens d'art, ils le resteraient. Je pense bien sûr aux deux exemples que l'on cite toujours dans ces cas-là. Je veux dire Vermeer, bien sûr, découvert par Thoré, Bürger, et d'autre part Georges Latour. Sans les historiens d'art, il n'y aurait pas de Georges Latour. Oui. Ils seraient restés, les tableaux existaient, mais on ne savait pas de qui ils étaient. Donc les historiens d'art ont une responsabilité à l'égard du passé. Je ne prétends pas que Cretté soit Georges Latour, mais je pense que l'arrivée de Cretté dans le panorama de la peinture française de la seconde moitié du XVIIe siècle apporte à notre vision de ce moment quelque chose de neuf, quelque chose de stimulant, quelque chose d'inattendu. Et à cet égard, je pense que ça prouve que ce métier d'historien d'art a quelque chose de...
passionnant.
Oui, il est assez passionnant.
On le partage avec vous par l'intermédiaire de ce micro, d'ailleurs, aussi. Mais donc, il est tombé dans l'oubli. C'est d'autant plus étonnant parce qu'il a reçu de grandes commandes de
oui.
son temps. Et puis, il a fait de la décoration du réfectoire.
Tout à fait.
À Lyon.
Bien sûr qu'il est entré en fait du musée. Un décor très impressionnant, mais les gens ne lèvent pas les yeux. En plus, il n'est pas embonné, il est arrivé à nous en médiocre état. Et au fond, ce décor, tout le monde disait scruté, mais on passait devant sans le regarder. Et je pense que l'exposition, justement, oblige maintenant le visiteur à regarder ce décor qui est un peu halluciné. On voit des têtes qui sortent de l'ombre, des regards un peu curieux. Enfin, tout ça est très impressionnant. Ce n'est pas un peintre sage.
Oui, et puis le musée a entrepris donc d'importants travaux de restauration.
C'est exact. Mais ce n'est pas une parenthèse que j'ouvre, mais c'est un point qui me paraît important. C'est le rôle des musées de faire connaître aux habitants de la ville où ce musée se situe, leurs peintres. C'est le rôle de les réhabiliter. Et là, je dois dire que le directeur du musée, Sophie Ramon, a fait ce qu'il fallait pour que justement cet artiste, son compatriote, enfin... Sophie Ramon n'est pas de Lyon, mais ça fait rien. Elle est conservateur du musée de Lyon, donc elle devient citoyenne de Lyon, bien sûr, pour le réhabiliter et pour faire que les tableaux, même ceux qui étaient fort loin, il y en a un qui est à Détroit, il y en a deux qui sont à Stockholm, il y en a un qui est au Québec, à Québec en vérité, tous ces tableaux-là puissent être réunis. Tous les tableaux que nous avons pu rassembler sont à l'exposition, tous.
Oui, c'est donc vraiment un grand événement.
C'est un événement. Et j'espère surtout que le public pourra répondre à cette question que je posais tout à l'heure. Très bon peintre, grand peintre. Quelle place il occupera ? Le goût change. Je veux dire par là, il y a eu un moment où on a aimé la nature morte française du 17e. Ce goût est un peu passé. Il y a eu un moment où on a beaucoup aimé les esquisses. On préférait les esquisses aux tableaux achevés. Aujourd'hui, on est un peu revenu là-dessus. Le goût change. Et je crois que le goût actuel, quand je change à ce qui se peint dans le domaine de l'art contemporain, c'est-à-dire un art violent, expressionniste, qui vous prend aux tripes, je crois que le goût actuel n'est pas le contraire de ce que Cretté a essayé de peindre.
Oui, c'est en quoi il serait précurseur de l'art moderne.
Oui, ça, je ne vais pas jusque-là. Mais enfin, il y a chez lui, en effet, cette violence, ce goût des martyrs. Il n'y a pas de sang chez lui, mais c'est violent. Les têtes décapitées, les flagellations, les sujets comme ça très brutaux.
Très dramatique, oui.
Très dramatique, et très, très dramatique.
Mais écoutez, je vous suggère de faire une petite pause avant de plonger... votre regard et notre regard sur une œuvre en particulier. Mentionné plus haut, c'est donc vous, Pierre Rosenberg, qui allez inaugurer notre série « Une œuvre, un regard » et de l'exposition « Lui Cretté ». Vous avez choisi « Toby et l'ange », peut-être son chef-d'œuvre, qui fait d'ailleurs la couverture du catalogue de l'exposition. Une œuvre qui semble avoir mis longtemps à trouver sa juste attribution, comme d'autres d'ailleurs, comme vous venez de le dire. Il y a d'ailleurs un pendant aussi, Toby enterrant les morts. Mais là, donc, on va nous concentrer sur Toby et l'ange.
Oui, c'est un petit tableau qui est au musée de Tours. Il mesure 0,66 m sur 0,75 m. C'est un tableau qui est entré au musée de Tours en 1859 et qui, en effet, comme vous venez de le rappeler, a mis longtemps à trouver sa juste paternité. On l'a appelé école génoise, on a pensé à l'Autriche. Et d'ailleurs, le conservateur du musée de Tours était un spécialiste de la peinture autrichienne, Boris Lossky, et de la peinture du centre de l'Europe. Et pour lui, c'était une vedette de sa salle consacrée à ses écoles au musée de Tours. Mais il est certainement de Creté. Il est certainement de Creté et il nous montre un épisode que j'aime beaucoup de l'histoire de la Bible, Tobie et l'ange, Tobias et l'ange. Que voyons-nous sur le tableau? Eh bien, on voit Tobie en train de pêcher le poisson, gros poisson qui est au premier plan. Il est penché sur l'eau et il est en train de le pêcher car on lui a dit que le foie de ce poisson guérirait son papa, qui est aveugle, de la cécité. Donc, il est en train de pêcher le poisson. Et derrière lui, et c'est ça qui rend le tableau particulièrement attachant, il y a un ange, un grand ange, qui pointe le doigt vers lui et qui semble lui dire « Écoute, c'est là qu'est le poisson qui va guérir ton papa. » Ça vient bien sûr de la Bible, c'est une histoire merveilleuse. Et l'ange a beaucoup de poésie et on comprend qu'on ait hésité sur l'attribution. Il a un côté, pour parler d'un peintre que j'aime beaucoup, il a un côté Schönfeld, un peintre allemand qui a vécu en Italie là, une majeure partie de sa vie, un grand peintre beaucoup plus tôt, encore vaguement dans la suite caravagesque. Mais cet ange donne à ce tableau sa poésie, son côté de rêve. C'est un tableau où on peut rêver. Alors ça se passe dans la nature, il y a de grands arbres, il y a un ciel bleu, des verts de montagne, et au premier plan, il y a en effet ce Toby penché sur l'eau, qui voit son image qui se reflète dans l'eau d'ailleurs. Et on comprend en effet qu'il n'est que l'instrument de l'ange, qui lui sait exactement ce que Toby a à faire, et qui le guide, et qu'on ne voit pas. Parce que l'ange est dans son dos, il est caché. Enfin, nous le voyons, mais Toby ne le voit pas. Et c'est une présence un peu mystérieuse. Alors le tableau, je l'aime beaucoup parce qu'en effet, il y a cette capacité de transcrire sur une toile le récit biblique et de le rendre tout aussi vivant que le récit biblique. Le récit biblique est très beau, il est très poétique. C'est rare qu'un peintre sache avec autant de spontanéité, d'ingénuité, de poésie surtout et de rêve, je me répète, transcrire ce récit biblique. Alors l'ange a aussi un grand bâton dans la main gauche, un long bâton, et on sent bien que ce bâton, c'est un peu le bâton qui guide Toby. Alors en effet, il y a un pendant à ce tableau qui est beaucoup plus dramatique, mais on voit bien que, parce que ce tableau-là est contrairement à beaucoup de tableaux de Creté, un tableau doux, et son pendant, au contraire, est un tableau très violent, puisque c'est là Toby enterrant les morts. Donc là, c'est un tableau doux, un tableau reposant, un tableau... Il était très bien présenté à l'exposition de Lyon, quand vous montez l'escalier qui mène au premier étage, il vous accueille, et on a l'impression que l'ange vous accueille, comme au fond, il avait accueilli Toby.
Ça me fait penser à l'Annonciation... À Firenze,
oui,
de Frangelico.
Oui, c'est ça. Mais là, les peintres savent parfois faire participer ceux qui regardent leur tableau à l'épisode qu'ils peignent. Et là, je crois qu'il y a bien réussi. Alors le tableau, je vous l'ai dit, a porté toutes sortes d'attributions. Et fort judicieusement, dans le catalogue, on reproduit à côté le même sujet, peint par Salvatore Rosa, qui est au Louvre. Alors cette fois-là, le tableau est un peu différent. Le poisson est déjà pêché, si j'ose dire. Toby le tient dans ses bras. Mais l'ange pointe le doigt d'une manière comparable vers le poisson. Et il y a le même grand bâton, les mêmes ailes. Deux mondes, deux conceptions de ce sujet. Et véritablement, je crois que là, on peut s'interroger qui de Salvatore Rosa ou de Creté est le plus grand des deux artistes.
Il est très poétique, vraiment, ce Toby.
C'est ça, sa force. Il y a une capacité d'évasion aussi dans l'art de Creté, une capacité de nous permettre de nous abstraire du monde du quotidien.
Je vois dans vos commentaires les figures de Tobias, enfin de Toby et de l'ange qui sont rehaussées donc de fines touches renforçant l'effet de vibration et des miroitements de la végétation. Donc, dans ces
ça,
paroles,
c'est le,
on
ça,
sent
c'est,
aussi
c'est
très, très bien.
Oui, bien sûr. Vous savez, l'exposition a été faite à deux et le principal du catalogue a été écrit par Aude Grobet, Henri. Quand la décision a été prise au musée de Lyon de faire l'exposition, il y a déjà un certain temps, parce qu'une exposition comme ça ne s'improvise pas dans la journée, je me suis dit « qui va m'aider ?». Alors je me souvenais du catalogue de l'article de 1988 où, en dépit de Gilles Chomer, beaucoup de choses nous avaient échappé. Alors je connaissais une jeune érudite, une jeune historienne d'art qui à l'époque était pensionnaire à l'Académie de France à Rome et qui était connue dans le milieu comme ayant la main verte. La main verte, c'est-à-dire la capacité de trouver dans les archives le document que personne n'avait trouvé. Enfin, je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui est indispensable pour l'exposition. Elle va nous trouver la date de naissance et la date de mort. Elle n'a retrouvé ni l'une ni l'autre de ces deux dates, mais elle a fait un travail admirable. Et ce que vous citiez tout à l'heure est en effet parfaitement ses termes pour décrire ce petit chef-d'œuvre.
Oui, oui. Elle a donc fait le catalogue sous votre direction.
C'est cela, exactement. Oui. C'est ça, donc, exactement.
Comme vous l'avez dit, catalogue raisonné, donc vraiment.
Ah, ben c'est un grand travail.
Un grand travail.
Ben, vous savez, 88, ça fait maintenant donc 22 ans. C'est bien ça, si je compte juste. Et maintenant, dans 22 ans, il y aura un nouvel ouvrage.
Oui.
Je ne serai plus parmi ce monde, mais Aude, au contraire, sera encore bien là, bien vivante, et elle pourra à son tour constater les progrès qui seront faits dans l'histoire de l'art pendant ces 22 ans.
Oui. Donc, dans ce catalogue, il y a tous les tableaux qui sont reproduits. Il y avait vraiment l'embarras du choix pour choisir un, pour sélectionner un seul pour notre série.
Mais j'ai choisi le tableau aussi le plus poétique. Peut-être il n'est pas tout à fait caractéristique de ce monde violent, brutal, extroverti, qui est le monde de Creté. Donc, celui-là est au contraire un tableau plus poétique, plus intérieur. Enfin, peut-être c'est pour ça que j'ai choisi, parce qu'il correspond plus à mes goûts en peinture.
Ouais. Tout le monde vous connaît comme un grand spécialiste et du 17e et du 18e, mais donc lui, il sort visiblement tout à fait des courants typiques du 17e siècle.
Pourquoi Lyon ? Pourquoi y avait-il à Lyon tout un courant de peintres qui reste à découvrir ? Je crois qu'en gros, des grands peintres du 17e siècle qui restent à redécouvrir, il y en a encore. Je pense que nous n'avons pas suffisamment porté notre regard sur la province. Et Lyon, bien sûr, c'est la province, mais il y a aussi Bordeaux, il y a Toulouse, il y a d'autres centres. Et je crois que les surprises, de même que la Tour, qui après tout est Lorrain, peuvent venir d'autres centres provinciaux qu'on n'a peut-être pas suffisamment étudiés. Je connais beaucoup de tableaux de très haute qualité, dans les musées, dans le commerce, chez des collectionneurs, de très haute qualité, dont je ne sais pas de qui ils sont. Il y en a vraiment des chefs-d'œuvre. Et peut-être qu'un jeune historien d'art, un jour, trouvera de qui sont ces tableaux et introduira le nom de leur auteur dans la liste glorieuse des peintres français de ce siècle.
Avis aux amateurs, avis aux historiens de l'art et avis aux sponsors.
Oui, absolument.
À défaut des financements publics.
Non, mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup encore à trouver. Et je vous dis, ces tableaux, tout historien d'art a devant lui une petite pile de photos anonymes, de tableaux dont il espère trouver l'auteur. Et parfois, en effet, par un document d'archives ou par un rapprochement avec un tableau documenté, on arrive comme ça à donner un nom à un tableau anonyme.
Ou alors, on fait comme vous, vous trouvez des tableaux comme ça, comme le verrou de Fragonard, par exemple, dans une vente ou plus.
Ah oui, ça c'est autre chose.
Mais écoutez, nous quittons vraiment avec regret Creté, Tobias et l'ange, ou Toby et l'ange, notre émission touchant à sa fin. Évidemment, il devait être très, très douloureux de sélectionner une seule œuvre parmi cette soixantaine d'exposés au Musée des Beaux-Arts à Lyon, qui comprend aussi bien des sujets, vous l'avez dit, mythologiques, religieux, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, des sujets d'histoire ou encore de superbes paysages, sans oublier quelque chose de rare,
des dessins.
Quatre dessins,
vous l'avez mentionné. Nouveauté. J'aurais bien aimé m'attribuer le mérite des attributions de ces quatre dessins, dont deux magnifiques sont au Louvre. C'est un jeune érudit, Jean-Christophe Baudequin, qui a proposé cette attribution. J'ai au départ été réticent, puis je me suis laissé convaincre, et l'exposition m'a alors cette fois-ci convaincu à 100%. Je crois véritablement que Creté est aussi un très grand dessinateur dont on pourra plus se dispenser de signaler l'importance dans tout ouvrage qui sera consacré au dessin français du XVIIe siècle. Mais il a sa place maintenant dans cette histoire du dessin français et ces quatre dessins devraient permettre d'en retrouver d'autres.
Donc un grand merci Pierre Rosenberg de nous avoir consacré un peu de votre précieux temps et de nous avoir fait connaître et de nous avoir déjà fait aimer cet artiste injustement oublié, mais donc c'est maintenant réparé, Louis Creté. Rappelons à nos auditeurs la première exposition Louis Creté au Musée des Beaux-Arts à Lyon, à voir absolument. Elle est encore en place jusqu'au 24 janvier 2011. Merci beaucoup, Monsieur Rosenberg. Au revoir.
Merci à vous.